marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Oh merde, un British.
La France anglaise.
Intérieur bourgeois anglais avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles anglais, fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais près d'un feu anglais. À côté de lui, dans un autre fauteuil anglais, Madame Smith, anglaise, raccommode des chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglais.
Tiens, il est 9h. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Nous avons bien mangé ce soir.
Tiens, il est 13h31, un extrait de la cantatrice Chauve. Au long du 19e siècle qui va nous intéresser, et bien après, les voyageurs anglais qui s'établissent pour un moment à Paris, et pareillement ceux qui villégiaturent longuement dans des lieux qu'ils ont élus et modelés, Cannes, Dinard, Pau, aiment s'entourer d'enseignes anglaises. Ils ont leur libraire anglais, leur tailleur anglais, leur pharmacien anglais. D'autres signes anglais ont leur importance. Par exemple, l'église anglicane avec ses étagères qui resserrent les livres de cantiques et ses coussins brodés sur les bancs. Et non loin, le cimetière, anglais toujours. Les Anglais qui s'établissent en France depuis une cinquantaine d'années renouvellent, eux, les traditions parce qu'ils appartiennent à des catégories sociales moins privilégiées que leurs prédécesseurs. Leur objectif n'est plus le littoral, trop cher. Ils jettent leur dévolu sur l'arrière-pays, les zones de moyenne montagne, avec une dilection pour le sud-ouest. Pour moitié, peut-être, ils sont retraités, mais beaucoup travaillent sur place, renouant avec un autre tropisme du 19e, l'appel des Français à des techniciens anglais. Il est malaisé de prévoir combien d'entre eux s'éloigneront ou resteront après le Brexit. En 2017, 3173 Britanniques ont choisi de demander la nationalité française. C'est 8 fois plus qu'en 2015. Ce n'est pas non plus un chiffre énorme. En réalité, la présence anglaise, quelle que soit la manière dont elle s'est structurée, a toujours polarisé une attention peut-être disproportionnée par rapport à son importance statistique. Et nous avons toujours entretenu autour des ressortissants des îles britanniques des îlots de malentendus soigneusement cultivés, comme si notre vieille curiosité avait besoin d'être sans cesse piquée.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Diana Cooper-Richet, bonjour.
Bonjour.
Un livre sur la France anglaise de la Révolution à nos jours, c'est aux éditions Fayard. Vous n'avez pas de problème de nationalité à vous poser?
Non, aucun problème.
J'ai trois nationalités.
Française, britannique et canadienne.
Très bien, ça vous met parfaitement à l'aise. Si vous voulez, pour qu'il y ait suffisamment d'excentricité, petite dose en tout cas, dans cette émission, je vous propose de commencer en racontant une histoire qui va nous permettre de dire quel fut le lien des Anglais avec la Révolution française. Nous sommes bien après la Révolution française. Des demoiselles, peut-être légèrement toquées, se promènent à Versailles. Elles sont de nationalité anglaise. Et voilà qu'elles aperçoivent du côté du hameau de la reine, elles aperçoivent, alors que la reine est morte depuis longtemps, la souveraine elle-même.
Eh bien, nous pensons être en mesure de prouver que nous avons rencontré la reine Marie-Antoinette et vécu auprès d'elle quelques instants de la journée du 5 octobre 1789.
Ce sont toujours les mêmes personnes qui voient les fantômes.
Mais ce sont toujours les mêmes qui refusent de les voir.
Ah, pas Annie en tout cas. Elle n'a jamais cessé d'en rencontrer. Elle en voyait déjà quand nous étions enfants à Winchester, Salisbury. Et vous-même, les Jourdains, vous nous avez un jour confié que pendant votre adolescence, vous étiez poursuivi par un rêve qui vous transportait au 18e siècle.
Écoutez, Jonathan, je n'ai jamais tenté de dissimuler que 7e fille d'un père lui-même 7e fils, je possède les dons de seconde vue en général attachés à cette qualité. Mais je les ai écartés, vous le savez. J'ai horreur de toute forme d'occultisme. Et Miss Jourdain partage cette attitude.
Et si vous repoussez ces apparitions surnaturelles, quelle interprétation proposez-vous?
Oui. Comment avez-vous pu assister à l'existence familière de ces personnes?
C'est un extrait du Tribunal de l'impossible de Michel Subiela. Le débat autour de cette affaire paranormale va durer une vingtaine d'années. Une des Miss va convaincre l'autre que oui, elle a bien vu Marie-Antoinette. Elles vont toutes les deux se documenter sur la vie quotidienne au hameau de la Reine, publier un livre. Ça a beaucoup imprimé la Révolution française chez les Anglais qui voyagent en France.
Oui, alors les Anglais qui voyagent en France et qui viennent en France pendant la Révolution sont curieux de cette Révolution. Ils sont curieux, certains sont sympathiques des idéaux de la Révolution, mais tous, pratiquement tous, d'après ce que j'ai pu lire dans leur mémoire, sont choqués par la violence, mais aussi par le traitement qui a été fait au roi et à la reine. Et les voyageurs vont, certains voyageurs anglais vont même essayer d'aider à la fuite à Varennes. Un certain Quentin Crawford va essayer de trouver une voiture pour permettre à la famille royale de s'enfuir. De la même façon, lorsqu'ils regardent les événements du 10 août 1792, ils sont très choqués et ils pensent que le traitement aurait dû être différent. Et par la suite, ils conservent cette attitude de assez, disons, bienfaisante par rapport à la famille royale, puisque quand ils viennent à Paris, ils vont toujours voir la chapelle expiatoire de la rue d'Anjou.
Qui a été créée par la monarchie de la Restauration. Les voyageurs anglais ont été aussi soumis à des difficultés pendant le durcissement de la Révolution française, à partir de 92-93, pendant l'Empire.
Ah, pendant l'Empire, ça n'a pas du tout été facile pour les Anglais. On en a arrêté un certain nombre et puis on en a surtout cantonné dans un certain nombre de villes. Alors, il y a des aristocrates qui ont été cantonnés, assez nombreux, dans la ville de Verdun. Alors, dans la ville de Verdun, ils sont organisés. Les familles aristocratiques mettaient à leur service des gens qui étaient plus modestes et ils vivaient une vie qui, somme toute, n'était pas si désagréable que ça, mais elle était limitée à la ville.
Alors, dans le premier 19e siècle, on va revenir aux gens qui viennent des milieux privilégiés et qui continuent à faire des voyages qui ressemblent un peu au grand tour de l'époque classique. Mais si vous voulez bien, on va, comme vous, marquer l'importance des voyages, des visites, du travail des entrepreneurs, des techniciens, des ouvriers. C'est un extrait d'En Famille, le livre d'Hector Malot, le vieux Vulpian. Il tient une usine textile à repérer une petite fille. Enfin, il ne sait pas que cette petite fille est beaucoup plus proche de lui qu'il ne l'imagine. Et il va la requérir comme traductrice des ouvriers anglais dans ses ateliers.
Approche, mon enfant. Qui sont tes parents?
Ma mère était anglaise.
Alors tu sais l'anglais?
Oui, mais...
Tu le sais ou tu ne le sais pas?
Je le sais, mais seulement l'anglais des conversations courantes.
Et suis-nous, mon enfant. Ces hommes-là sont des mécaniciens anglais. Ils viennent pour installer des machines anglaises qui sont dans ces grandes caisses que tu vois. Petite, demande-leur pourquoi ils se croisent les bras.
Mr. Vulfran wants to know why you are not working.
The machines weigh 120,000 pounds. That weight would certainly go through the floor, especially when the machines start working.
Eh bien, mon enfant.
C'est un peu compliqué pour moi.
Bon, et essaie de m'expliquer.
Ils disent que le plancher n'est pas assez solide pour porter leur machine. 120 000 livres.
Ah, ces poutres ont 60 cm de hauteur.
These beams are 60 centimeters thick.
We have checked the horizontal of the floor. It's bending. We shall have to put supports under the floor.
Ils disent qu'il faut placer des étais sous le plancher.
Je vais faire placer des étais tout de suite, mais qu'ils se mettent au travail sans perdre une minute.
Un film de Jean Vernier. Dans votre France anglaise, je ne sais pas si j'ai dit que c'était publié chez Fayard, Diana Cooper-Richet. Vous avez tendance à dire que les ouvriers anglais sont victimes d'ostracisme. Bah, ils parlent anglais.
Alors, en effet, il y a eu des cas d'ostracisme parce que finalement, les ouvriers anglais et même les ouvrières anglaises, parce qu'il y en avait dans le textile, vivaient souvent séparés des autres. En Normandie, il y avait même des cités anglaises pour les ouvriers anglais. D'autre part, dans un certain nombre de secteurs, comme dans les mines par exemple, les ouvriers anglais étaient plus productifs que les ouvriers français, ce qui faisait augmenter les cadences et donc ils n'étaient pas toujours très très bien vus. Mais ces ouvriers anglais, il faut le noter, on l'en trouve dans pratiquement tous les secteurs et comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ils viennent souvent accompagner des machines que les Français ne savent pas encore utiliser.
Textile, forge, sidérurgie, oui. Chemin de fer. Sur 10 000 ouvriers qui travaillent à la construction de la ligne Paris-Rouen de chemin de fer, la moitié sont anglais.
Oui, ils ont même un journal qui s'appelle The Railway, je ne sais plus quoi, mais qui a été publié pendant un certain nombre d'années pour ces ouvriers anglais du chemin de fer. Donc un journal en anglais publié en France pour ces ouvriers-là.
On va en retrouver des journaux en anglais publiés en France. Et justement, chez les voyageurs qui poursuivent la tradition du Grand Tour et qui vont débarquer alors à Boulogne, à Dieppe. On pourrait peut-être s'arrêter à Calais.
Alors Calais, on a souvent dit que c'était l'asile des débiteurs anglais, parce que c'est le premier port. D'abord, c'est le chemin le plus court pour venir d'Angleterre, donc les bateaux mettent moins longtemps. Donc on dit que ceux qui n'étaient pas là pour le Grand Tour, qui n'étaient pas là pour un voyage d'agrément, mais qui étaient poursuivis par le fisc ou des gens à qui ils devaient de l'argent, allaient à Calais. Donc c'était cet asile des débiteurs anglais. Ils arrivent donc à Calais, là, c'est la voie la plus courte, il y a tout de suite un hôtel très agréable qui s'appelle l'Hôtel d'Angleterre, qui est dirigé par un certain monsieur Dessin. Et Dessin a eu la bonne idée non seulement d'installer le confort le plus moderne, mais en plus de construire un théâtre.
Et Brummel, donc, le grand dandy.
Oui, le grand dandy.
Haute figure des Anglais de France, il s'installe d'abord à l'hôtel de Saint.
Oui, et puis il a été à Caen, dans mon souvenir. Oui. Alors, à Caen.
Mais là, il avait des dettes aussi.
Oui, là, il avait des dettes.
Mais on continue à Calais.
À Calais, donc, il y a ce théâtre. Et très souvent, les voyageurs y vont parce que pour eux, c'est comme un avant-goût de Paris. Parce que Paris, c'est aussi beaucoup le théâtre. Donc, il y a aussi à Calais, une
l'hôtel
chapelle
Meurice,
anglaise.
L'hôtel Meurice.
Alors, l'hôtel Meurice, c'est à Paris.
Mais il y en a à Calais.
Mais oui, mais Monsieur Maurice, il a le relais de poste. Et donc, son hôtel est moins connu par ce nom à Calais que par le nom qu'il porte à Paris. Mais c'est vrai qu'il a commencé à Calais et qu'il s'est dit, je vais faire un hôtel à Paris pour les Anglais.
Ce qui est drôle dans le voyage tel qu'il s'organise, dans ce milieu, c'est l'importance très vite du guide.
Le parcours est balisé. Les guides accompagnent toujours les visiteurs. Et on trouve dans la littérature très souvent des descriptions de voyageurs et on note qu'ils ont le guide à la main. Et donc, il y a des parcours balisés et ils le font. Par exemple, cette chapelle expiatoire fait partie de ces parcours balisés.
Alors, on est à Paris, là. Est-ce qu'il y a des boutiques anglaises pour les Anglais ?
Il y a tout pour les Anglais. Il y a des boutiques, il y a des restaurants, il y a des hôtels, il y a des tailleurs. Il y a tout, on peut faire imprimer ses cartes de visite. On trouve tout à Paris.
Alors, je voudrais que vous nous racontiez l'aventure de Galignani. Alors, Galignani, ça existe toujours, une grande librairie rue de Rivoli. Et d'abord, un salon de lecture. Nous sommes dans la première moitié du 19e siècle. Qu'est-ce que c'est qu'un salon de lecture rue Vivienne ?
Alors, on est en 1800. C'est un Anglais, c'est un Italien qui est passé par l'Angleterre. À un moment, il est venu en France pendant la Révolution. Il a vu qu'il ne pourrait pas faire ses affaires. Donc, il est reparti en Angleterre. Là, il a fait un salon de conversation à Londres. Et puis, en 1800, il débarque à Paris. Il ouvre un cabinet de lecture, un salon littéraire, une bibliothèque de prêt. Et dès 1807, il commence à publier des revues en anglais. Et ensuite, il va publier pendant tout le 19e siècle, de 1814 à 1890, un quotidien en anglais à Paris qui s'appelle Galignani's Messenger.
Encore un journal en anglais en France. On parlera tout à l'heure de French News à Périgueux. Mais restons à Paris et chez Galignani. Il est éditeur, mais il fait pas mal dans la contrefaçon, non ?
Oui, comme d'autres éditeurs à Paris qui ont été étudiés, il fait de la contrefaçon. Et il va faire de la contrefaçon jusqu'en 1852. Et à partir de 1852, il y a une loi sur le copyright. Donc il n'a plus le droit de copier les livres anglais à Paris.
Avec le Second Empire, tout change. Alors, vous vous racontez que c'est, par exemple, autour des expositions universelles de 1855, de 1867, qu'un tourisme plus rapide, organisé par des agences, l'agence Cook, se met en place. Mais j'aimerais que vous insistiez avec nous sur cette nouvelle façon d'exister en France des Anglais, qui est la villégiature dans des endroits qu'ils ont souvent inventé, entre guillemets.
1850, ça y est. Les Anglais vivent dans cette partie ouest de Cannes, comme en Angleterre avec le soleil en plus. Alors ils circulent au galop, en costume souvent excentrique, dans la ville qui leur appartient du droit du souverain. Nous avons vu, entre autres, un fier gaillard passer sur son cheval en caleçon de bain et un Écossais dont la petite jupe flottait et n'avait guère de secret pour les passants. Ce ne sont que cavalcades, croquet, cricket, chasse, bal, lunch et comédie. De quoi faire mourir un homme bien portant, de quoi rendre la vie phtisique, paraît-il. Ça, c'est Ferdinand Bach qui écrivait ça.
Monsieur le maire, Marius Mallet, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les villas de Dinard ?
Ce qu'elles ont de particulier, c'est, il faut le dire, un certain nombre de caractères communs. Le principal caractère commun, c'est que, par rapport, je dirais, au siècle qui a précédé leur création, eh bien, la façade principale, quand il y en a une, est toujours orientée vers la mer. Ce qui a correspondu à une modification psychologique importante qui s'est déroulée au XIXe siècle, qui a eu son apogée vers 1855, c'est-à-dire que la mer n'est plus la mer cruelle, la mer au miasme, la mer répulsive, mais au contraire la mer attractive, la mer source de bienfaits, de santé, d'où la pratique des bains de mer, d'où les vues sur le large. Notre ville ayant été particulièrement dans ce domaine, assez curieusement d'ailleurs, inspirée dans toutes ses constructions par un auteur très ancien qui s'appelle Pline le Jeune.
C'est drôle, moi, à la place de Marius Mallet, j'aurais cité plutôt Pline l'Ancien, qui était spécialiste de physiologie, qui étudiait la nature. Mais enfin, Marius Mallet, avant d'être maire de Dinard, il a été pharmacien. Il sait de quoi il parle. Il parle de santé. Les villégiatures des Anglais sont fondées sur des vertus curatives.
Oui, si on regarde par exemple le grand pourfendeur de l'esclavage, qui était Lord Brougham, il est venu en France pour soigner sa fille qui était phtisique. Et il a trouvé un village qui lui a beaucoup plu. C'était un village de pêcheurs à l'époque, en 1834, le village de Cannes. Il a lancé Cannes, il a construit une immense villa qui portait le nom de sa fille, Éléonore Louise. Et on peut dire qu'à sa mort, en 1868, il a commencé déjà à lancer, fabriquer la Riviera.
Mais moi j'ai une dilection pour Pau, où le séjour des Anglais est peut-être moins connu de la part de la généralité des Français. Ce sont les Anglais venus avec l'armée de Wellington, qui montaient donc d'Espagne, qui ont découvert les bienfaits du climat pyrénéen. Et alors là, il y a eu une ville anglaise pendant plusieurs décennies.
Oui, on a souvent dit que Pau était une ville anglaise. En fait, il me semble que les premiers à être venus soigner leur maladie pulmonaire, c'est vers 1820 à peu près. Et à cette époque-là, dans les années qui suivent, dans les décennies qui suivent, il y a un médecin anglais qui était sur place, qui est même enterré dans le cimetière de Pau. En 1846, on a à peu près 250 familles qui viennent, qui visitent, qui n'y restent pas forcément toute l'année. Et 10 ans plus tard, il y a déjà 800 familles. Donc à Pau, on a une rue des Anglais avec des lotissements qui ont été prévus pour les Anglais.
Enfin, quand on dit lotissement, entendons-nous bien. Hein.
C'est des lotissements de villas.
Des villas avec des grands parcs,
oui.
Regorgeant d'arbres en fleurs.
Il y a une chapelle écossaise, il y a trois églises anglicanes, il y a un cercle anglais qui a même eu un très très beau bâtiment à l'intérieur de la ville.
Qui subsiste.
Oui, et puis on a eu, je pense, le premier parcours de golf qui a été construit à Pau. Et il y a eu même à une époque une meute de chiens de chasse à court.
Oui, la chasse au renard. Vous parlez de Worf, le couturier anglais qui sévit à Paris, mais il n'a pas eu beaucoup de descendance. Chanel, elle a appris à Pau l'élégance à l'anglaise.
Oui, c'est drôle de penser que peut-être comme ancêtre, Chanel, Coco Chanel a eu Frederick Busk, dont on dit qu'il est l'inventeur de la haute couture. Et c'était un Anglais qui était venu à Paris pour travailler dans un magasin de tissus.
Oui, mais avec des codes, tandis que Chanel avait appris à Pau des Anglais l'absence de codes.
Voilà.
L'élégance libre et sportive.
Oui, c'est ça.
On sait qu'Edward VII, le roi de l'entente cordiale, est venu aussi à Pau. Il aimait bien, en plus du golf, le polo, les terrains d'aviation. Mais si vous le voulez bien, on va faire une ellipse. Les auditeurs n'ont qu'à lire La France anglaise chez Fayard, de la Révolution à nos jours. Et on va passer directement de l'entente cordiale à l'Union européenne et directement de l'Union européenne au Brexit. Voici le leader des WHO et son groupe. Le leader, lui, il a fait campagne pour le Brexit. Peut-être ses chansons ont-elles circulé sur les réseaux sociaux en profitant des piratages, des agrégations de données de Facebook par la société Cambridge Analytica.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Vous avez vu, c'est un Anglais. Un Anglais. J'aime pas moi les Anglais.
Mais oui, mais la France est en partie anglaise. C'est ce que soutient Diana Cooper-Richet dans son livre. Vous avez vu, on est passé direct aux années 60-70. C'est dans les années 60-70 qu'en Dordogne, vous avez vu, voilà les premiers Anglais. En Dordogne.
Alors, c'est vrai qu'on constate une descente vers le sud des Anglais et on constate également un changement de catégorie sociale de ces Anglais. Ce ne sont plus les mêmes.
Descente vers le sud, ce n'est pas le littoral.
Non, c'est plus le littoral. Non, c'est plus le littoral, mais c'est quand même des endroits où le soleil est un peu plus présent qu'en Angleterre. Alors, ces Anglais viennent de catégories modestes généralement, et leur objectif est de s'acheter une maison rurale généralement, d'un type qu'ils ne pourraient pas s'offrir en Angleterre. Et donc, ils vont investir, puisqu'ils ont généralement assez peu de revenus, ils vont investir des régions de France dans lesquelles les maisons rurales sont à vendre ou abandonnées. Alors, on en trouve un peu partout. Anglais, on en trouve dans la Creuse, on en trouve dans le pays de Gâtine, on en trouve dans l'Indre, on en trouve dans la Vienne, on en trouve dans la Haute-Vienne, on en trouve bien sûr en Dordogne.
Et c'est la première implantation de ce nouveau style. On arrive maintenant à 0,7% de la population de ce qu'il faut appeler la Nouvelle-Aquitaine.
Oui, et on a un phénomène intéressant, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories d'Anglais. Des Anglais qui vivent là toute l'année et d'autres qui profitent des vols à bon marché, des liaisons aériennes qui se sont installées à partir des années 2000, par exemple, multiplication des liaisons à partir de Bergerac, à partir de Limoges, à partir de Poitiers.
Allez citer Ryanair, après les guides, après l'agence Cook, Ryanair. Alors, résultante, dans un village qui s'appelle Vert, un documentaire de Johanna Bedeau.
Oh ben, ce serait mieux, c'est vrai, de vendre ça à des gens de la commune que des étrangers, c'est sûr.
Ah ouais, ça aurait été mieux. Il n'y a pas de Verrois qu'on demandait pour acheter.
Non, personne. Alors. C'est ça.
Bon, vous les côtoyez, vous?
Ah, moi, je les vois, même ils viennent me voir.
Les campagnes,
on a de la misère à se comprendre, parce que eux, ils ont de la misère à parler français, et puis moi, je ne connais pas l'anglais, alors. Mais on arrive à se comprendre quand même un peu.
Les familles sont toujours agriculteurs en Angleterre, mais avec le terrain maintenant 10 fois plus cher que la France, avec la banque. C'est un prêt générationnel maintenant. Cette exploitation en Angleterre, c'est plusieurs millions de livres. Donc c'est absolument impossible.
Si, que la maison, là, je suis acheté la maison, la dame elle parle bien français. Elle. Je n'ai pas de mal à en dire.
Ils aiment le bon vin.
Ils aiment bien l'apéritif.
Oui, mais on a quand même de la misère à se comprendre. Revient toujours cet argument. Si on a bien compris quand même l'agriculteur britannique, il y a un différentiel du foncier et de l'immobilier. Sauf que tout ça, c'est susceptible de variations conjoncturelles. Ces implantations sont-elles vraiment durables? Parce qu'il suffit d'une crise financière, il suffit d'un cours différent de la livre et on se pose la question du maintien.
Oui, on se pose toujours la question du maintien, mais ce qu'on constate par exemple, et il y a un article du Guardian qui est paru hier et qui parlait du village le plus anglais de France qui s'appelle Aimay en Dordogne, et les agents immobiliers anglais disaient qu'ils avaient vendu plus de maisons depuis le mois de janvier de cette année qu'ils ne l'avaient fait auparavant, et que les Anglais leur expliquaient qu'ils voulaient vite acheter une maison avant que le Brexit ne soit vraiment signé et que les choses soient vraiment coupées entre la France et l'Union européenne, entre l'Angleterre et l'Union européenne.
Oui, ne parlez pas de Frexit, s'il vous plaît. Mais il y a un très grand nuancier d'opinion. Conversation à Nantron, à laquelle j'assistais il y a une dizaine de jours, en Dordogne. Alors, le banquier disait, oh là là, ils ne cherchent pas à apprendre le français, ils vivent en groupe. Et puis, son interlocuteur, oui mais... Regarde le café. Il n'y a presque plus de café. Les cafés disparaissent à grande vitesse en France. Et puis, en Grande-Bretagne, les pubs disparaissent à grande vitesse. Mais heureusement, on a des Anglais qui transforment nos cafés qui pourraient disparaître en pubs.
Mais je crois que vous avez très bien illustré en fait la situation, parce que on a d'un côté, par exemple, dans certaines régions de France et dans certains villages, des Français qui disent « mais notre village aurait disparu s'il n'y avait pas eu ces familles anglaises pour venir s'installer ». De la même façon, c'est vrai, il n'y aurait plus de café, il n'y aurait plus de pub, plus d'épicerie si les Anglais n'étaient pas venus. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des difficultés parce que les Anglais ont tendance, sans doute aussi pour des raisons linguistiques, parce qu'ils ne maîtrisent pas très bien le français, à rester regroupés et à reproduire en France leur mode de vie habituel.
Oui, mais on aime bien entretenir nos îlots de malentendus. Ça fait partie d'une rhétorique récurrente qui illustrait par exemple le succès d'un Anglais en Provence, de Peter Mell, qui vient de disparaître. La France anglaise chez Fayard, c'est votre dernier livre, Diana Cooper-Richet. Cette émission a été réalisée par Audrey Ripouille, la préparation Franck Olivard et Adèle Kaito, et à la technique Rémi Sistiaga. C'est son premier direct, je crois, tout seul. Comme un grand. Et vous, Mathieu Vidard, on ne compte pas le premier direct au compteur.
Eh non, malheureusement. On va parler du goût de l'autre, du cannibalisme, avec un anthropologue.
Anthropologie, voilà. Du cannibalisme. Il faut bien traduire.